Bonjour tout le monde, il va être l'heure. Avant que nous commencions, je vous rappelle que ce soir à 17h30, M. Mohamed Diouf fera sa conférence sur l'histoire croisée d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Donc nous avons une longue journée qui nous attend et nous démarrons avec quelqu'un de conséquent, si j'ose dire, c'est mon grand ami. Amit Bozarslan, qui ne le cache pas, est d'origine kurde, venu en France au début des années 80 pour sa formation intellectuelle. Il a été formé par deux grands maîtres, François Furet et, Rémi Levaux, que j'ai bien connu parce qu'il a été aussi l'un de mes patrons. Jadis, et donc en dehors du champ de connaissance de l'histoire kurde, M. Bozarslan travaille depuis un certain nombre d'années sur les questions de la violence au Moyen-Orient, et ainsi que dans la poursuite du travail de François Furet sur la notion de révolution, son applicabilité ou non aux événements du Proche-Orient. Il a déjà une œuvre considérable d'un grand nombre de livres, riche et foisonnant. Et donc, son intervention d'aujourd'hui portera sur la culture politique kurde, un moment où peut-être les Kurdes n'ont jamais été autant dans les titres de l'actualité, à la fois en Turquie, en Syrie et en Irak, et un petit peu aussi en Iran. D'ailleurs, Amit, je te passe la parole.
Merci, cher Henri. Donc, je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour parler non pas de la question kurde en tant que telle, mais pour insister sur la culture politique kurde, comment une culture politique kurde à la fois spécifique, mais aussi fragmentée, a pu se constituer au cours du XXe siècle. Mais je dois quand même commencer peut-être en donnant quelques éléments de base. La question kurde, effectivement, est désormais assez connue. La presse en parle beaucoup. Il y a 25 ans, il y avait à peine 25 ouvrages sur les Kurdes. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'en anglais, il y a 2 ouvrages par mois qui paraissent sur le sujet. Donc, il y a effectivement un foisonnement dans ce sens-là. Mais quand même, commençons par quelques éléments de base. Donc, il s'agit d'une population de quelques 30 millions d'habitants, sans doute aujourd'hui, séparés entre... par des frontières entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Il y a une communauté kurde dans le Caucase également, une communauté kurde au Liban. Et bien entendu, il y a une diaspora kurde qui s'élève sans doute maintenant à près d'un million et demi de personnes. Évoquer ces éléments-là signifie aussi de placer les Kurdes dans l'espace. Hein. Je pense que la géographie, en l'occurrence, est extrêmement importante hein, parce que les Kurdes se situent au croisement de 3 zones linguistiques, mais qui renvoient aussi à des faits ethniques assez lourds, turcs, persans et arabes. Et si vous prenez aussi en considération la dimension russe, vous verrez que vous êtes en face hein, de 3 empires, cette fois-ci l'empire persan, Iran, qui deviendra Iran par la suite, hein, l'Empire ottoman et l'Empire russe. Cette division date du début du XVIe siècle, la première division du Kurdistan, à la suite des guerres entre la Perse safavide, déjà chiite, et l'Empire ottoman. C'est d'ailleurs à la faveur de ces guerres du début du XVIe siècle que l'Empire ottoman devient un empire oriental. Jusqu'à maintenant, l'Empire ottoman est un empire essentiellement occidental, voire européen. Et puis, par la suite, il y a une deuxième division qui date de la dissolution de l'Empire ottoman en 1918-19. Je n'insisterai pas sur les événements qui ont eu lieu par la suite, mais je dirais que bon, dans les années 1920 et 30, il y a toute une série de révoltes kurdes en Iran, en Turquie et en Irak. La dernière de ces révoltes est de 1946, qui débouche sur la formation d'une république autonome en Iran. Il y a par la suite une période de silence qui va durer de 1946 en 1961. En 1961, vous avez une révolte qui s'appelle la révolte de Barzani, de nom de la personne qui la dirige, Mustafa Barzani. Et à partir de 1961, on peut dire que le Kurdistan est devenu un espace de violence, de contestation, de révolte successive et de répression. Insister sur cette division signifie aussi de nous placer d'emblée dans le sujet qui est la culture politique. Cette division signifie que les Kurdes, la culture politique kurde s'est formée à la fois sous l'impact du Moyen-Orient, et n'oublions pas que dans les années 1920, 30 ou 40, le Moyen-Orient est dominé essentiellement par des courants plus ou moins occidentalistes ou nationalistes. Dans les années 50, 60, 70, le Moyen-Orient fait partie de ce qu'on appelle le tricontinental. Le tricontinental, c'est cet univers plus ou moins imaginaire qui regrouperait l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique dans une résistance anti-impérialiste contre l'Occident. La gauche est de très loin dominante et à partir des années 80, vous avez la montée en puissance de l'islamisme. Et les Kurdes se trouvent effectivement au cœur de ce processus. Ne sont pas du tout exclus de ce processus. Dans les années 1920, 30 ou 40, la contestation kurde est pour l'essentiel à la fois islamiste, islamique plutôt qu'islamiste, et occidentaliste. Dans les années 50, 60, 70, les Kurdes sont dans un mouvement de gauche, et je reviendrai, l'islamisme n'a pas pris au Kurdistan pour des raisons multiples, même s'il y a des courants islamistes. Donc, un environnement régional déjà, moyen-oriental. En deuxième lieu, une culture politique, cette fois-ci, qui est spécifique à chacun des États. La Syrie, l'Irak, la Turquie ou l'Iran ont connu des trajectoires très distinctes. Certes, il y a effectivement des éléments qui les lient à partir d'une sociologie historique. On peut dire qu'effectivement, il y a des traits communs entre ces États. Mais de l'autre côté, on sait par exemple que la culture politique iranienne, la culture politique turque, la culture politique irakienne ou syrienne ne sont pas nécessairement les mêmes. Les langues ne sont pas les mêmes, les contacts avec l'Occident ne sont pas les mêmes, les contacts avec les autres pays du monde musulman ne sont pas les mêmes, les aspirations impériales ou néo-impériales ne sont pas les mêmes, et tout ceci a un impact aussi sur les Kurdes. En troisième lieu, il faudrait dire aussi qu'il y a une culture politique kurde spécifique qui se crée autour de, en gros, le nationalisme kurde, l'idée de faire partie de constituer un peuple uni, mais séparé. Cela signifie effectivement qu'il y a des courants qui passent au sein des mouvements kurdes. Des mouvements kurdes voient le jour aussi bien en Irak. Je parle trop vite. D'accord. Voilà, les organisations kurdes ont pu voir le jour aussi bien en Irak qu'en Syrie, en Iran ou en Turquie, mais ces organisations sont dans une continuité. Chacun peut avoir sa spécificité, chacun peut avoir sa langue politique, son langage politique, mais il y a aussi des continuités. Et puis, enfin, il faudrait aussi mentionner des divisions internes aux Kurdes, qui ne seront pas cette fois-ci des divisions qu'on peut expliquer par... disons la formation du Moyen-Orient moderne. Ce sont des divisions linguistiques. Les Kurdes parlent ce qu'on appelle le kurde, mais au sein duquel il y a plusieurs langues ou plusieurs dialectes, et le facteur confessionnel intra-musulman ou extra-islamique joue aussi un rôle. Ainsi, vous avez une communauté chiite, certes minoritaire, vous avez une communauté alévi, certes minoritaire, vous avez une communauté yézidi, et ces communautés-là ne produisent pas nécessairement, non pas nécessairement, les mêmes aspirations. Elles ne suivent pas un seul modèle de contestation ou d'intégration. Une fois cette pluralité posée, on peut se poser la question de rapport du particulier et l'universel. On a Jean Lecas, le politiste Jean Lecas, expliqué dans les années 90 que l'universel, une idéologie universelle, renforçait le particulier. Et à l'intermination, qui est une spécialiste de l'histoire arménienne, expliquait que les chrétiens et les juifs avaient joué le rôle dans les années 1920, 30 et 40 de colporteurs de Comintern, de la Troisième Internationale, et étaient devenus des diffuseurs des idées de gauche. On sait aussi que les Palestiniens, dans les années 60-70, sont devenus en quelque sorte des colporteurs des idées de gauche à travers le Moyen-Orient. Et dans le cas kurde, on a aussi ce rapport entre le particulier et l'universel. Les Kurdes constituent un groupe particulier, mais en même temps, en tant que groupe particulier, ont besoin de l'universel, à la fois pour s'imaginer, se placer dans l'histoire mondiale, mais aussi justifier, légitimer leur propre cause. Le modèle d'Ibn Khaldoun du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, l'historien du Maghreb du XIVe siècle, de ce point de vue-là, est extrêmement pertinente pour expliquer aussi la trajectoire des Kurdes. Il faut un élément particulier qu'Ibn Khaldoun appelait la asabiya, la solidarité du groupe, et de l'autre côté, une idéologie, un appel, qu'Ibn Khaldoun appelait la dawa. Et je pense que tout au long du XXe siècle, la culture politique kurde a été obligé à la fois de se baser sur la particularité des Kurdes, créer un groupe kurde en tant que groupe particulier, et de l'autre côté, placer ce groupe particulier dans une perspective universelle, en partant des idéologies qui sont universelles. Je ne parlerai pas de la période ottomane. Je dirais que tout de suite après la chute de l'Empire ottoman, les Kurdes se sont trouvés en quelque sorte orphelins d'empire. Qu'est-ce qu'on fait si le cadre impérial ottoman n'est plus là? Cette question ne se posait pas dans les mêmes termes en Perse. Il n'en reste pas moins qu'en Perse aussi, la question kurde a été reformulée. Mais dans le cas de la Turquie, pour les Kurdes de Turquie par exemple, les rapports avec ce qui restait de l'Empire ottoman, la Turquie kémaliste qui commençait à émerger, se posait de manière extrêmement cruciale. Qu'est-ce qu'on fait avec les Turcs? Quels sont les liens entre les Kurdes et les Turcs? Dans un premier temps, ces liens ont été définis en termes de complémentarité, l'inséparabilité des Kurdes et des Turcs. Pourquoi cette inséparabilité? Bien entendu, la solidarité islamique, la guerre de l'indépendance de Mustafa Kemal, qui ne s'appelait pas encore Atatürk, se présentait comme une guerre au nom de l'islam, la défense de l'islam, et cet argument pan-islamique a parfaitement fonctionné. Et de l'autre côté, l'alliance entre les Kurdes et les Turcs, bien entendu, quand je parle des Kurdes et des Turcs, je ne parle pas de... Voilà, c'est une façon de s'exprimer. Il faut, avec plus de prudence, parler des acteurs kurdes et des acteurs turcs, mais ça sera beaucoup plus long. Donc j'utilise, mais vraiment de manière générique, les Kurdes et les Turcs. Leur alliance s'expliquait par la participation aussi des Kurdes au génocide des Arméniens. Et les Kurdes avaient effectivement peur que... le retour des Arméniens leur enlèverait les biens qu'aujourd'hui on définirait mal acquis, mais qui sont acquis par la violence, par la brutalité. Et ces biens-là étaient à la fois des villages, des richesses, de l'immobilier urbain et la féminité arménienne. Énormément de femmes avaient été effectivement obligées de se convertir à l'islam et épouser des Kurdes pour pouvoir échapper au génocide. Et puis, enfin, il y avait un troisième élément qui expliquait pourquoi les Kurdes avaient fait l'alliance avec la Turquie kémaliste en formation, c'est que Mustafa Kemal promettait la réunification du Kurdistan, autrement dit, la reconquête des territoires kurdes irakiens et des enclaves kurdes en Syrie. On ne parlait pas encore d'un Kurdistan syrien, puisqu'il n'y avait que trois enclaves au Kurdistan, kurdes dans le territoire syrien, qui ont d'ailleurs été par la suite démographiquement renforcées après, sous le mandat français. Et Mustafa Kemal promettait l'unification de cet espace kurde par la réintégration en Turquie. On n'était pas encore dans la logique de la sortie d'Empire. La sortie d'Empire ne s'annoncera qu'à la fin de 1922. Et cela explique que le mouvement kurde, immédiatement, après la Première Guerre mondiale, est un mouvement à la fois nationaliste, puisque l'idée de la kurdicité est là, l'idée que les Kurdes constituent un groupe ethnique séparé, un groupe linguistique séparé, avec une histoire distincte, est clairement formulée. Et de l'autre côté, ce particularisme est défini en termes de complémentarité avec l'élément dominant qui reste de l'Empire, ça veut dire la Turquie. Les choses vont se dégrader après 1922-23 pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons parce que, en premier lieu, Mustafa Kemal abolit le sultanat ottoman et dans le sillage proclame la République en 1923. Et en 1924, c'est le califat, l'institution symboliquement importante, même si politiquement cette institution était déjà une coquille vide, le califat est abrogé ou supprimé en 1924. Et dès 1925, il y a des premières mesures d'une sécularisation extrêmement musclée qui sont posées. Ces mesures sont l'interdiction, par exemple, des madrasas, des écoles religieuses, l'interdiction des confréries, l'imposition du chapeau à l'occidental, ce qu'on appelle la révolution du vêtement. Et tous ces facteurs-là, toutes ces évolutions-là, sont très mal perçues par les acteurs kurdes. Il y a, en quelque sorte, une rupture de contrat. Un deuxième élément intervient à partir de 1924 et 1925. La Turquie kémaliste formule très clairement un projet exclusivement turc, voire agressivement nationaliste. Les Arméniens ne sont plus là, les Grecs sont réduits à une peau de chagrin, mais on voit que le discours kémaliste se fait de plus en plus antisémite, anti-arabe aussi en partie, mais surtout anti-kurde, les Kurdes constituant finalement la seule communauté importante qui ne soit pas assimilée à la turcité. Certes islamique, mais quand même ethniquement distincte. Et puis, un troisième élément qui intervient, la réunification du Kurdistan n'a pas eu lieu. Mustafa Kemal n'a pas réuni le Kurdistan. Et le traité de Lausanne est de ce point de vue-là, qui est l'acte fondateur de la Turquie moderne, est de ce point de vue-là extrêmement important. Ce traité est considéré par des acteurs kurdes de l'époque comme une trahison. Pourquoi une trahison, alors que la question du Kurdistan du Sud, qui va devenir le Kurdistan d'Irak, n'est pas encore résolue, ça ne sera finalement tranché officiellement qu'en 1926. Pour les acteurs kurdes, il est évident qu'après Lausanne, la Turquie kémaliste ne se livrera pas à une aventure militaire, à un affrontement avec les Anglais, et ni d'ailleurs avec les Français, et que les frontières de Lausanne seront finalement des frontières décisives. Et donc tout ceci suscite l'idée qu'il y a une trahison turque et que les Kurdes sont désormais livrés à eux-mêmes. Et ils sont d'autant plus livrés à eux-mêmes qu'en Irak, il y a une intégration forcée du Kurdistan à l'État central qui vient d'être créé. Et en Syrie, ces enclaves jouissent, les enclaves kurdes jouissent d'une très grande politique de tolérance de la part de Paris, mais on sait que la division va être là. Cette division est extrêmement importante pour les Kurdes parce que pour la première fois, les frontières sont militarisées. La division affecte pratiquement chaque famille de deux côtés de la famille, des frontières, mais surtout, il y a une militarisation. Et cette militarisation a aussi un impact sur les Kurdes de Syrie. Du coup, la mobilité n'est plus possible. Toute mobilité signifie un défi lancé, militaire lancé à l'État. Et ce qui était tout à fait normal devient, du jour au lendemain, une contrebande. Si vous traversez la frontière et si vous amenez un demi-kilo de thé à votre cousin, eh bien vous êtes passible d'une peine de... car du coup, cette activité est désormais considérée comme une contrebande. Et le début des révoltes en Iran, en Irak et en Turquie s'explique par ce fait-là. Quel est le discours kurde durant cette période ? Un premier discours, c'est un discours islamique. Les Turcs ont trahi l'islam et désormais c'est aux Kurdes de prendre le drapeau de l'islam que les Turcs ont abandonné. Et ce n'est pas du tout par hasard que la première révolte majeure au Kurdistan de Turquie, la révolte de 1925, ait été dirigée par le Cheikh Saïd. Cheikh, ça le pose déjà, l'un des dirigeants, l'une des grandes figures de la confrérie Naqshbandi. Mais le deuxième discours, qui va finalement être le discours dominant et qui va structurer le mouvement kurde en quelque sorte dans la durée, c'est un discours occidentaliste. Un discours occidentaliste qui pose la question de la civilisation occidentale. Durant cette période-là, la Turquie jouit d'une très grande réputation en Europe, mais aussi en Union soviétique. La Turquie kémaliste est considérée comme un pays moderne, voire le seul pays moderne du monde musulman. La politique de laïcisation passe très bien. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un paradoxe historique, car les Européens, Paris et Londres, avaient promis et juré que la Turquie sera punie pour le génocide des Arméniens, mais la Turquie est totalement réhabilitée en tant qu'ancien ennemi, alors que les Arabes et les Kurdes, qui devaient être sauvés, sont soit partagés, soit entre plusieurs États, soit totalement niés. Et donc le discours de civilisation occidentale devient central. Il faut montrer à l'Europe que les Turcs, la Turquie kémaliste ne représente pas la civilisation, mais représente la barbarie. Le thème principal, c'est que, comme j'ai dit, une partie des Kurdes avaient participé au génocide. La question du génocide devient, par exemple, très rapidement un élément. Les Turcs, entre guillemets, ont exterminé les Arméniennes. Maintenant, ils veulent exterminer les Kurdes. Les Turcs sont responsables de l'arriération des Kurdes. Ce discours vise très clairement à montrer que les éléments, les acteurs de civilisation dans la région ne peuvent être que des Kurdes. Et qu'en se battant contre la Turquie, contre la barbarie turque, entre guillemets, on se bat aussi pour la civilisation occidentale. Et tout le discours des années 1920 et 30, voire 40, se basera sur ce principe d'altérité et de continuité avec l'Europe. L'Europe qui nous a trahis, l'Europe qui nous a abandonnés, l'Europe qui soutient une force, un régime, qui est un régime, dans les faits, parfaitement barbare. Ce discours, bien entendu, est assez complexe. Dans ce discours, vous pouvez aussi avoir des éléments social-darwinistes, vous pouvez avoir des éléments de type déjà un peu de gauche. Le nationalisme est très clairement là. Mais ce discours est absolument déterminant durant cette période. Et il y a une deuxième réponse qui est portée par les Kurdes ou les acteurs kurdes à la division du Kurdistan, mais aussi à la répression des révoltes successives, notamment en Turquie, mais pas exclusivement en Turquie. Et cette réponse, c'est de créer une unité symbolique. Une bonne partie des éléments du nationalisme kurde vont être déjà mis en place dans les années 1920. Quels sont ces éléments-là? Un drapeau kurde, qui a été pour la première fois proposé en 1919. Et ce drapeau va devenir un drapeau pan-kurdistanais qui va prendre sa place, qui va être apprécié ou accepté par la totalité des acteurs kurdes en Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie. L'imaginaire d'une carte, la carte du Kurdistan. Cette carte, bien entendu, personne ne peut définir le Kurdistan. Aujourd'hui encore, je crois que ça sera extrêmement difficile. C'est pour ça que souvent j'utilise le terme d'espace kurde ou de sphère kurde pour déterminer, pour souligner qu'il y a effectivement un fait kurde, mais sans le contenir. Il n'en reste pas moins que cette carte, qui a pu connaître quelques variations ici et là, va devenir un élément central unifiant les Kurdes. L'invention d'une historiographie, l'histoire ancienne. Nous, les Kurdes, on descend des Mèdes. Essayer de créer une filiation historique, préhistorique en quelque sorte, pas uniquement historique, mais préhistorique, qui placerait les Kurdes au cœur du Moyen-Orient sur plusieurs millénaires. L'interprétation de l'histoire du 19e et 20e siècle. La formation d'un panthéon kurde. Autrement dit, le leader du Kurde de Turquie est aussi le leader de assassins exécutés, est aussi considéré comme un leader du Kurde d'Iran ou d'Irak. Et en 1946, un hymne national qui reste aujourd'hui encore l'hymne national kurde. Et donc, on voit que plus la division s'approfondit, plus les frontières se militarisent, plus l'unité du Kurdistan se fait sur un plan symbolique, sur un plan imaginaire. Sauf que Sartre aurait dit, l'imaginaire n'est jamais que imaginaire. L'imaginaire se puise dans le tangible et produit le tangible, et ce tangible, on va le voir quelques décennies plus tard. Donc, un discours sur la civilisation, les Kurdes finalement européennes, représentant la civilisation européenne dans la région, et une unité historique, les Kurdes constituant un seul groupe historique, démographique, politique, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette période va se terminer en gros en 1946, donc un peu plus de 25 ans après la formation du Moyen-Orient contemporain. Et 1946, c'est aussi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1946, les Russes sont encore en Iran. Le retrait russe marque en gros la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la région. Et va s'ouvrir pour les Kurdes une période de silence, qui va aller de 1946 à 1961. Durant cette période de silence, les acteurs des années 1920, 30 ou 40 ne seront pas totalement passifs, mais ils voient qu'ils vieillissent. Pour eux, dans les années 1920, ils représentaient la dernière génération de l'oppression nationale. Ils s'imaginaient, ils s'estimaient être la première génération d'un Kurdistan libre et indépendant, les acteurs de l'émancipation nationale. Dans les années 40 ou 50, alors que les États sont solides, ils voient que le pari est perdu. Et il y a une sorte de dissociation entre le temps national et le temps générationnel. Le temps national est ajourné, le moment d'émancipation nationale est ajourné, alors que le temps générationnel arrive à son terme. Et ce qui va se passer durant cette période-là, c'est que les acteurs kurdes des années 1920, 30 ou 40 se feront écrivains. Ils vont écrire leurs mémoires. Le devoir de témoignage. Bien entendu, pour les historiens, ces témoignages sont assez complexes à analyser. Quiconque lit un livre de mémoire, un volume de mémoire, sait combien la reconstruction mémorielle est importante. Il y a ce qu'on appelle les régimes mémoriels. Mais une fois qu'on a fait abstraction de tout ceci, que disent ces volumes de mémoire ? Ces volumes de mémoire passe en quelque sorte le drapeau. Le drapeau est passé à des générations encore à venir. Les générations qui ne sont pas encore nées, mais les générations à venir, une sorte de transmission de la cause, de la dawa nationale kurde à des générations futures. Et ces documents parlent de la trahison des Turcs, parlent de la trahison des Anglais, des Français, parlent de la trahison des Russes, en 1946, puisqu'ils ont occupé l'Iran, ils ont suscité la création d'une république autonome pour une courte durée, mais ils ne l'ont pas défendue. parle des divisions internes kurdes, élabore un discours social darwiniste, un discours social darwiniste qui considère finalement, qui est assez dominant en Turquie, mais aussi au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, vous ne pouvez pas comprendre le baasisme sans prendre en considération le darwinisme social. Le darwinisme social qui dit, voilà, la lutte, l'humanité, l'histoire de l'humanité est une histoire de guerre et de lutte, et dans cette lutte pour la survie, seules les nations les plus fortes pourront gagner. Et donc, un appel au renforcement de la kurdicité, un appel à la transmission de la mémoire des souffrances comme un outil de résistance, mais aussi de renforcement de la kurdicité. Et sans doute, c'est durant cette période-là que le terme de kurdicité est aussi utilisé de plus en plus. Donc, une période de silence qui va durer quand même 15 ans, de 1946 à 1961. Une bonne partie de ces auteurs de mémoire vont encore vivre pendant 10 ou 15 ans, mais ils se savent une génération vaincue. Les choses changent à partir de 1971, et on entre là, sans doute, dans la troisième période. Comme j'ai dit, la première période, 1920, 30, 40, jusqu'à 1946, est une période de révolte. 1946-1961, c'est une période de silence. À partir de 1961, on est dans une période de nouveau de contestation et de révolte. Pourquoi 1961 comme date, peut-on prendre 1961 comme un repère? Tout simplement parce qu'il y a une révolte qui commence en Irak, qui est connue comme la révolte de Mustafa Barzani. Mustafa Barzani, qui est-il? C'est un chef tribal, initialement, même si sa tribu se transforme, métamorphose en quelque chose d'autre, qui est en révolte depuis 1943, qui participe à la contestation kurde iranienne de 1946, qui est obligé de battre en retraite et cherche asile ou en Union soviétique. En Union soviétique, il est devenu conservateur. Ce qui est extraordinaire, parce que d'habitude, quand on va dans des pays socialistes durant cette période-là, on revient soit staliniste, soit, j'en ai connu, trotskiste, par dépit. Mais Mustafa Barzani est une figure conservatrice et, à la limite, il devient beaucoup plus conservatrice après ses expériences en Union soviétique. Il revient en Irak en 1961. Irak 1961, on est trois ans après, en 1958. 1958, c'est la date du coup d'État de Abdelkarim Qassem, qui se présente, qui inaugure un régime qui se présente comme un régime socialiste de gauche. Il y a des négociations avec Bagdad, entre Barzani et Bagdad. Ces négociations ne débouchent pas sur grand-chose. Et donc, il lance sa révolte en 1961 avec la demande ou la revendication d'autonomie. Barzani est conservateur, mais lorsqu'il revient au Kurdistan, il rencontre une jeunesse qui n'est plus du tout la jeunesse des années 1920, 30 ou 40. C'est une jeunesse infiniment plus éduquée. On peut parler d'un phénomène d'intelligentsia qui est assez dense. C'est une jeunesse qui est gagnée à la gauche. Et je pense que le fait que la gauche devienne, durant cette période, en Irak, mais aussi dans une bonne partie du monde arabe, le courant dominant, l'idéologie contestataire dominante, a aussi un impact durable dans l'espace kurde. Une grande partie de l'intelligentsia kurde, l'élite kurde, urbain kurde, est désormais ancrée à gauche. Cette élite trouve dans la gauche, ou dans le discours marxiste-léniniste, entre guillemets, une synthèse entre le particulier et l'universel. La question kurde est désormais posée comme une question de nation opprimée. Or, le marxisme-léninisme promet aux nations opprimées une émancipation, le droit de disposer d'eux-mêmes. La question est posée désormais en tant que l'alliance des classes opprimées et des nations opprimées. Et c'est pour cette raison qu'une grande partie des mouvements minoritaires à travers le monde dans les années 60 ou 70 sont des mouvements de gauche. Vous trouverez très peu de mouvements de droite qui soient des mouvements minoritaires. À tel point que dans un pays comme le Sri Lanka, dans la mesure où le parti communiste dominant est staliniste, les Tamouls adoptent un discours trotskiste. Mais vous ne contestez pas la gauche en tant que telle, parce que la gauche vous promet, vous présente la promesse de, d'émancipation nationale et d'émancipation sociale simultanément. Il y a aussi d'autres facteurs. On est en pleine période de contestation anticoloniale. Vous avez le cas de l'Algérie. Les Kurdes suivent de très près ce qui se passe en Algérie. Vous avez le cas des contestations en Afrique. Vous avez l'exemple de la Palestine. Et à partir de ce moment-là, se met en place dans l'imaginaire kurde, mais aussi en partie palestinienne, à vrai dire dans les années 60, cette complémentarité entre les deux contestations. Les Kurdes d'un côté, les Palestiniennes de l'autre. Et cette période qui commence à partir de 1961 va durer finalement jusqu'à 1991, voire jusqu'au début des années 2000. Durant cette période-là, ces longues décennies, les Kurdes, les acteurs kurdes, les partis politiques kurdes seront essentiellement des partis de gauche. La révolte de Barzani va être écrasée en 1975. Se mettra en place une deuxième révolte rapidement après. À partir de 1979, vous avez, avec la révolution iranienne, une guérilla kurde qui commence en Iran. Le PKK, dont on entend beaucoup parler, est formé en 1978. À partir de 1984, il va lancer sa lutte de guérilla. Et tous ces mouvements-là vont immanquablement être des mouvements de gauche. Les racines de la culture politique kurde aujourd'hui, mais aussi des organisations politiques kurdes aujourd'hui, se trouvent dans cette période d'ancrage à gauche. Cet ancrage ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de friction ou de variation. On sait, par exemple, que le Parti démocratique kurde d'Iran va avoir une option ou une tournure plutôt social-démocrate. De l'autre côté, une organisation comme le PKK, fondée en 1978, comme j'ai dit, et qui commence sa guérilla en 1984, va radicaliser infiniment l'héritage de gauche qu'il va recevoir du passé. Va même devenir fanoniste de France Fanon, autrement dit, en posant la question de la violence, non pas comme un outil de un outil d'émancipation nationale, mais pour produire un homme décolonisé. Le discours du PKK durant cette période-là, 78, mais aussi dans les années 80, c'est que si les Kurdes ont été colonisés, et le fait que les Kurdes ont été colonisés est désormais intégré par les acteurs kurdes, si les Kurdes sont colonisés, la raison principale, c'est qu'ils sont complices de leur propre colonisation. Et l'objectif n'est plus du tout de seulement émanciper le Kurdistan, mais d'émanciper le Kurde, l'homme kurde. L'homme colonisé ne peut se libérer que par la violence, disait Frantz Fanon, et le discours de PKK dans les années 70-80, qui ne puisse pas dans Frantz Fanon, est exactement la même chose. La violence est nécessaire pour l'émancipation de l'individu, de son propre héritage, de sa propre complicité avec l'esclavage. C'est quelque chose qui est assez connu, spontané. Thomas Sankara, dont on parle beaucoup ces jours-ci, disait exactement la même chose. Donc vous avez ce discours, ce fanonisme spontané un peu partout. Et cette radicalisation signifie aussi que de plus en plus, on est dans la participation des couches plébiennes dans le mouvement. Le mouvement cesse d'être uniquement un mouvement, disons, des catégories plus ou moins constituées, que ce soit des notabilités urbaines, l'intelligentsia, les tribus ou les confréries comme le passé, mais les couches plébiennes participent de plus en plus activement à cette contestation, et cette participation signifie aussi la radicalisation de la contestation. Enfin, je crois que durant cette période-là, graduellement, comme j'ai dit, les Kurdes regardent ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Palestine, graduellement, voit aussi l'idée, émerge aussi l'idée que les Kurdes peuvent devenir la tête de pont d'une transformation à l'échelle moyenne-orientale. Là encore, on voit le lien entre le particulier et l'universel. Il y a une sorte de compétition non déclarée entre les acteurs kurdes, notamment le PKK et les Palestiniens, qui va transformer le Moyen-Orient. Et à vrai dire, l'objectif du PKK, initialement, était certes de créer un État kurde, mais surtout de déclencher une révolution socialiste à l'échelle moyenne-orientale, transformer le Kurdistan en le peuple kurde, en acteur déclencheur de cette révolution. Là encore, vous voyez le rapport entre le particulier et l'universel. Et cette troisième période va se terminer en 1991. À partir de 1991, le Kurdistan connaît énormément de transformations. Là aussi, je ne vais pas insister sur l'histoire chronologique. Vous avez la guerre du Golfe de 1991. À la suite de cette guerre du Golfe, il y a un espace autonome kurde qui est créé, et cet espace autonome est plus ou moins là, toujours là. Et une nouvelle expérience d'étatisation pour les Kurdes commence. Mais en même temps, 1991 signifie aussi la fin de l'Union soviétique. 1989, c'est la chute du mur de Berlin, et l'Union soviétique cesse d'exister le 1er janvier 1991, si je ne me trompe pas. Donc, la Chine n'est plus du tout un modèle révolutionnaire. Dans les années 80, la Chine sort du maoïsme et entre dans une voie capitaliste, même si cette voie est définie comme le socialisme du marché. L'Union soviétique n'est plus émettrice des idées de gauche. Comment les Kurdes vont gérer la disparition de ces références de gauche ? L'option qui se présente à eux, c'est bien entendu l'islamisme. Est-ce que, comme le Hamas, qui a adopté une idéologie radicale djihadiste, à la fois nationaliste et djihadiste, ils vont virer vers l'islamisme, ou est-ce qu'ils vont au contraire essayer de trouver d'autres discours ? L'islamisme kurde a existé. Après tout, Malak Rekar, qui s'appelle le Mollah ouvrier, ça signifie combien le passé de gauche a marqué cet espace. Le Mollah ouvrier kurde a été, qui est d'Irak, a été un élève, un disciple de Abdullah Azzam. Abdullah Azzam, vous en parlerez peut-être cet après-midi, qui a été finalement le théoricien avant la lettre de Al-Qaïda. Il y a toujours eu effectivement des djihadistes kurdes dans les années 80-90. Il y a eu des partis politiques islamistes kurdes, aussi bien en Turquie qu'en Irak. Les Frères musulmans ont une petite branche kurde qui est active, aussi bien au Kurdistan d'Irak qu'au Kurdistan iranien. Et en même temps, cet islamisme est resté extrêmement marginal. Pourquoi marginal ? Parce que je pense que la solution que les acteurs kurdes ont trouvée pour gérer la sortie de la gauche a été double, contradictoire, mais en même temps qui fait, dans une certaine limite, sens. C'était quoi cette solution ? Comme j'ai dit, elle est double. La première solution, le libéralisme. Au Kurdistan d'Irak, on a adopté un modèle libéral. Un modèle libéral qu'on pourrait considérer, comparer plus ou moins à ce qui se passe aujourd'hui en Jordanie. Donc une économie à la fois patrimoniale, mais en même temps qui est souple, qui laisse pas mal de marge de manœuvre aux acteurs privés, qui diminue le poids de l'État en tant qu'organisateur, acteur principal de l'économie, et qui combine à la fois un pluralisme et un patrimonialisme. Et dans une période où les émetteurs de message de l'universel ne se trouvait plus à Pékin ou à Moscou, mais à Washington ou à Bruxelles, à Londres ou à Paris, ce discours ne pouvait que réintégrer les Kurdes dans le discours européen. Comme dans les années 1920, tout d'un coup, les Kurdes deviennent les acteurs de la civilisation, pas occidentale, puisqu'on n'utilise plus le terme de civilisation occidentale dans les années 90-2000, mais la civilisation. Ils font partie de l'espace démocratique, ils font partie de la société civile, ils ont une société civile et donc des complémentarités. Des complémentarités avec l'Europe et avec l'Occident, et avec l'Occident d'une manière générale. Donc il y a une réintégration, il y a à la fois un retour aux années 1920, puisque c'est le discours civilisationnel qui est là, et de l'autre côté, il y a une intégration dans le discours ambiant du moment. Et cela d'autant plus qu'au même moment, l'image des sociétés arabes dans le monde occidental se dégrade très nettement. L'autoritarisme, l'islamisme, la violence. Rappelez-vous, y compris dans les années 2000, certes, il y a un discours de gauche sur le monde arabe, mais même dans ce discours de gauche, les sociétés arabes sont assez méprisées. Ou en tout cas, on parle de l'exception arabe, les Arabes qui seraient résistants à toute transformation démocratique. Et voilà le jour, voilà un exemple kurde qui contredit ce fait-là. Donc un premier discours qui est libéral, ouvert, et un deuxième discours qui est le contraire de ce premier discours, mais qui répond aussi à quelque chose d'universel. Ce deuxième discours est propulsé par Abdullah Öcalan, le chef du PKK, qui a été arrêté en 1999. Abdullah Öcalan, comme j'ai dit, son parti, en tout cas dans les années 80, était très fanoniste, donc un discours extrêmement radical. Cette radicalité ne disparaît pas, mais à partir de 1999-2000, il adopte une théorie anarcho-marxiste. Anarcho-marxiste inspiré notamment par Murray Bookchin, qui est un théoricien américain anarcho-marxiste. Durant cette période-là, Öcalan lit la quasi-totalité de la French Theory, la fameuse French Theory, Deleuze, Guattari, etc. Lit les penseurs plus ou moins contestataires comme Ernst Laclau ou Chantal Mouffe et arrive à l'idée que la question kurde ne peut pas être résolue par la création d'un État kurde, mais par l'invention d'une démocratie radicale. Qu'est-ce qui veut dire la démocratie radicale ? La démocratie radicale signifie la représentation directe des populations à tous les niveaux et partant des autonomies locales à tous les niveaux, qui ne remettrait pas en cause la question des États existants, mais qui, par cette transformation, viderait les États existants de tout contenu. L'État westphalien cesserait d'exister, non pas parce qu'il serait supprimé par la violence, mais parce que la représentation directe des populations par une démocratie radicale rendrait la question de l'État elle-même une question caduque. Et là aussi, je pense que, bon, effectivement, dans les années 2000, vous avez énormément de débats, y compris à la Sorbonne, hein, je veux dire, sur ces thèmes-là. Que faire de l'État voir l'idée de contre-démocratie de Pierre-Rosan Vallon, qui ne se reconnaîtra certainement pas dans la théorie anarcho-marxiste, hein, renvoie aussi un peu à ça. Et donc, du coup, voilà, effectivement, on est dans cette idée de la démocratie radicale. La démocratie radicale qui, du coup, posera la question, résoudra la question kurde par définition, puisqu'il y aura cette représentation directe aussi des Kurdes à tous les niveaux. Cette démocratie radicale doit aussi résoudre toutes les questions que le Moyen-Orient a reçues en héritage depuis les Sumériennes ou les Babyloniennes. La question féminine, car le nouveau mouvement, la démocratie radicale, doit être féministe. La question écologique, car la nouvelle démocratie ou la démocratie radicale ne peut être démocratique que si elle est écologique. Et par ce biais-là, vous avez une continuité, malgré tout, avec l'ancien marxisme. Et n'oublions pas que dans la pensée de Marx, il y a plusieurs Marx. Dans la pensée de Marx, la république dissensuelle, la république qui refuse le consensus, la république qui se déploie à plusieurs échelles, est présente. Donc on ne rompt pas nécessairement avec le marxisme, mais on rompt radicalement avec le léninisme. Donc avec tout ce qui, toutes les transformations que le marxisme a connues avec la troisième internationale et le tournant léniniste sont abandonnés, mais le marxisme en tant que tel est redéfini à l'aune d'une théorie, cette fois-ci anarchiste. Et cette deuxième option est extrêmement importante dans le cas kurde parce que ça leur permet une réuniversalisation. Une réuniversalisation, autrement dit, les Kurdes peuvent de nouveau devenir un modèle. Là encore, le particulier, les Kurdes, qui expérimentent la démocratie radicale, il y a une féminisation réelle du mouvement kurde à tous les niveaux, peut raisonner avec ce qui se passe avec les zapatistes au Mexique ou avec les mouvements d'indignés qui ont pu voir le jour à Athènes, à Madrid ou sur la place de la République. Ces deux modèles sont arrivés, donc le modèle libéral d'un côté, le modèle anarcho-marxiste, appelons-le, de la démocratie directe ou de la démocratie radicale, sont arrivés à une sorte d'épuisement assez rapidement, notamment à partir de 2013-2014, voire 2012. 2012, pourquoi ? On est au début de la guerre civile ou l'état de violence syrienne. La révolution syrienne commence le 15 mars 2011. Le 18 juillet 2012, il y a une série d'attentats qui décapitent une bonne partie de commandants de Bachar al-Assad, y compris son beau-frère. Son frère Maher est sans doute paralysé à vie. Et dès le lendemain, il y a une double inflexion dans la politique syrienne, dans la politique de Bachar al-Assad. On commence à utiliser l'aviation contre les populations civiles et le régime syrien se retire d'une bonne partie des territoires kurdes, qui sont finalement confiés à un parti qui s'appelle le Parti démocratique d'unité, le Parti d'unité démocratique, qui est très proche du PKK et donc de ce modèle de représentation directe. 2014, c'est l'ascension de l'État islamique. Tout d'un coup, les Kurdes affrontent un ennemi absolument inconnu. Jusqu'à maintenant, ils avaient une complémentarité dans l'opposition avec les États. Ils savaient que étaient les États. Ils avaient leur imaginaire structuré autour d'une opposition, une contestation, d'une lutte d'émancipation nationale contre les États. Or, tout d'un coup, vous avez un autre acteur qui émerge, qui contrôle une grande partie des frontières kurdes, qui attaque le Kurdistan, les scènes de la ville de Kobané, ou les scènes de Sinjar, où la communauté yézidi kurde a été martyrisée, qui est transfrontalière, qui refuse comme les Kurdes les frontières, qui est radicale, et qui en même temps proclame un califat. Comment se positionner par rapport à cette évolution ? Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on va avoir de nouveau une situation de crise au Kurdistan. Une situation de crise car en Irak, la société kurde est obligée de nouveau de se remilitariser face à l'État islamique. C'était quelque chose qui n'était absolument pas imaginé ou prévu. On pensait qu'on pouvait être dans un modèle libéral et que le modèle libéral exigeait qu'on n'utilise pas des armes. Le modèle libéral est incompatible avec la violence au quotidien. Or, avec l'État islamique, la violence est de nouveau au cœur de la société kurde. Et par la suite, je ne reviendrai pas dessus, avec le référendum et les conséquences du référendum, cette fois-ci, le régime, les milices chiites qui sont là et ces milices sont à l'ordre finalement des pastarans de l'Iran. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces milices? Comment on assure l'unité nationale en interne? C'est vrai qu'y compris en 2013, les Kurdes irakiens, adeptes du libéralisme, se pensaient comme l'Athènes de la région. À partir de 2014, ils sont obligés de se transformer en Sparte de la région. Et de l'autre côté, les Kurdes syriens, dont le parti le plus important est pro-PKK, comme j'ai dit, est obligé de négocier avec les Américains, voire devenir l'allié principal des Américains dans la région contre l'État islamique. Et comment on peut être à la fois dans une logique de gauche, de démocratie libérale, dans un anarcho-marxisme, et de l'autre côté, se trouver dans une alliance internationale qui est dirigée, chapeautée par les Américains et armée par les Américains. Je pense que bon, ces questions-là vont être déterminantes pour comprendre l'avenir de la question kurde au XXIe siècle, mais je dirais que peut-être ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une rupture majeure, une rupture majeure dans la culture politique du Moyen-Orient aussi, d'une manière générale. Dans les années 1920, je reviens un peu en arrière, on était voilà, dans l'occidentalisme et dans le nationalisme, mais les élites turques, persanes ou arabes sont également dans l'occidentalisme et dans le nationalisme. Il y a une complémentarité, il y a une possibilité de traduire une langue à une autre. Vous pouvez traduire la langue politique arabe des années 1920 ou 30 à la langue politique kurde de ces années-là. Dans les années 1950, 60, 70, je l'ai rappelé, c'est la gauche qui est dominante. Vous pouvez parfaitement traduire la langue politique arabe de ces années-là en langue politique kurde pour arriver à la synthèse suivante, démocratie pour l'Irak, autonomie ou fédération pour le Kurdistan. Ou la démocratie pour l'Iran et l'autonomie ou fédération pour le Kurdistan. Il y a cette possibilité de traduisibilité entre le particulier, entre deux particuliers, un dominant, l'autre dominé. Dans le marxisme, on expliquait cela comme l'alliance des peuples opprimés et des classes opprimées des peuples oppresseurs. Ce discours-là, effectivement, les jeunes n'arriveront plus du tout à le situer, mais bon, dans les années 70, c'était ainsi qu'on parlait. Dans les années 80, malgré tout, il y avait l'islamisme qui permettait une sorte de traduisibilité. Le fameux verset du Coran, « Oh, vous, les humains, on vous a créés en famille, en tribu, en etc. etc. » Et donc, du coup, une légitimité religieuse en disant « On est à la fois tous musulmans, Dieu merci, et de l'autre côté, Dieu nous a créés en groupes séparés. » Et si on est des groupes séparés, ça veut dire que chaque groupe a le droit à. Donc cette possibilité de traduisibilité existe. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que, depuis quelques années, avec la confessionnalisation extrême de la région, avec l'appui et la participation active de l'Iran, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, la possibilité de traduire une langue dominante en une langue minoritaire a disparu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui traduire l'arabe politique qui est confessionnel, confessionnalisé, biologisé en kurde politique. Tout simplement parce que les images de Qamus Othman, la chemise ensanglantée d'Othman, ou Kerbala, le martyr de petit-fils de Mohammed, ne font pas sens au Kurdistan. Et de l'autre côté, les débats sur le libéralisme au Kurdistan ou sur l'anarcho-marxisme au Kurdistan ne peuvent pas être traduits en arabe. Peut être traduit, bien sûr, en arabe tunisien, en arabe algérien, en berbère, mais pas en arabe irakien ou en arabe syrien. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment les Kurdes vont pouvoir se positionner désormais et gérer cette question d'intraduisibilité. Le fait qu'il y a une traduisibilité à distance avec Bruxelles, Washington, ou avec Mélenchon, cela peut effectivement être rassurant, soulageant, mais ce soulagement ne permet pas d'établir des continuités avec les peuples voisins qui sont finalement les peuples dominants. Donc comment on va pouvoir, comment les acteurs kurdes vont pouvoir gérer cette question, et dans les deux cas aussi, comment les Kurdes vont pouvoir résoudre leurs problèmes internes, qui sont des questions très concrètes, mais aussi des questions théoriques, comment le Kurdistan va pouvoir se démocratiser. Parce que d'un côté, j'ai dit, effectivement, il y a un modèle libéral compatible avec la démocratie, mais le modèle kurde libéral irakien est à la fois pluraliste et patrimonial. Est-ce que le patrimonialisme peut être compatible avec la démocratie et jusqu'à quel point? Et de l'autre côté, le modèle de la représentation directe que prend le PKK et ses alliés, notamment en Syrie, mais pas exclusivement, peut permettre effectivement une représentation directe, des élections à tous les niveaux, mais dans la pratique, est-ce que cela va résoudre la question de l'hégémonie, puisque dans les faits, aujourd'hui au Kurdistan syrien, il n'y a qu'un seul parti qui est hégémonique. La participation ne permet pas de résoudre la question hégémonique. Or, la démocratie exige à la fois le consensus et le dissensus. Une démocratie ne peut pas ne pas avoir, la cité démocratique ne peut pas ne pas avoir le consensus, parce que le consensus est nécessaire pour définir son identité politique, les limites de ce territoire, sa territorialité. Et de l'autre côté, le dissensus est nécessaire, car s'il n'y a pas de dissensus, s'il n'y a pas de conflictualité, la légitimation de la conflictualité interne, on ne peut absolument pas éviter le risque de totalitarisme. Donc je pense qu'effectivement, ces questions qui sont théoriques se posent aujourd'hui de manière très concrète dans le cas kurde, aussi bien au Kurdistan d'Irak qu'au Kurdistan syrien. Les émetteurs, disons, de ces... J'insiste surtout sur ces deux territoires, car ce sont des territoires de violence, même s'il y a la guérilla kurde en Turquie et en Iran aussi, la lutte armée n'a pas cessé, mais disons que les deux expériences directes politiques sont désormais là, et voilà, je crois qu'effectivement les enjeux principaux à l'avenir seront la gestion de cette question de la démocratie, mais je ne pense pas du tout que les Kurdes peuvent résoudre ce problème-là seuls. À moins qu'il y ait une démocratisation à l'échelle régionale, à moins qu'il y ait une conscience civique en Irak et en Syrie où les sociétés disparaissent. La société sunnite irakienne a disparu, arabe sunnite. La société syrienne risque de disparaître. Rien n'indique qu'on va pouvoir parler de la Syrie en 2020 encore d'une société syrienne. Voilà, s'il n'y a pas de conscience civique au sein de ces sociétés, les Kurdes ne pourront pas non plus avoir toute l'attitude de s'imaginer comme inventeur de modèles ou comme une Athènes à l'échelle régionale. Donc voilà, je vais m'arrêter là.
Merci, Amit, de ce splendide exposé d'une densité redoutable, mais extrêmement riche d'enseignements, puisque tu as pris la culture politique comme lien conducteur. Ça donnait quelque chose de relativement homogène, alors que la société kurde est soumise à des pressions centrifuges, centripèdes, qui vont dans... tous les sens. Quelques points de remarque. Je disais la semaine dernière en séminaire, l'empire, c'est la négociation. Donc le cas des Kurdes dans le système ottoman et dans le système iranien, enfin Safavide de Qadja, était un système de négociation. J'insiste sur ce point parce que vous avez un discours nationaliste kurde qui dit nous étions indépendants. Non, vous n'étiez pas indépendant. Il y avait des chefs de tribus puissantes, capables de mobiliser des milliers d'hommes en armes, qui étaient investis par les autorités impériales du contrôle de telle ou telle région, et il y avait cet échange traditionnel entre la légitimité donnée par l'appareil d'État et la force sur le terrain que représentaient ce qu'on appelle les principautés, les tribus, etc. Et ça, dans toute cette ligne qui va donc du Caucase jusqu'à le vilayet de Mossoul. Et de l'autre côté, il y avait pas une vraie frontière avec la Perse, de facto. C'était, C'était une frontière passoire. Donc ces empires négociés, le dernier épisode étant évidemment les fameux régiments hamidiés de l'époque d'Abdullah Hamid, et c'est justement la création de l'État moderne qui met fin à ces autonomies de fait, et surtout à ces processus négociation qui, et c'est la fin du processus de négociation qui, quelque part, fait naître la question kurde. Enfin, on pourra en rediscuter. Évidemment, Lausanne, je me rappelle justement, là, il y a un an et demi, j'étais en Turquie pour un colloque, et quand on a dit c'est pas ça Expicto qui est remis en cause, c'est Lausanne. Et là, on voyait que c'était la principale préoccupation de nos interlocuteurs turcs. Alors, définition du Kurdistan, ça me rappelle une anecdote. Notre ami Jean-Pierre Tchèque, qui à l'époque était journaliste au Monde sous la signature de Michel Farrer, avait écrit un article dans le Monde, un grand article, dans lequel il expliquait qu'il n'y avait pas de frontière entre les Kurdes et les Turcs, mais un dégradé progressif où on passait de l'un à l'autre. Et son article dans Le Monde lui avait valu une condamnation à mort du PKK. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas eu de concrétisation, mais on avait touché là un point essentiel. L'autre point essentiel, c'est quand on pense aux populations, on a toujours tendance à avoir des tâches homogènes, alors qu'il y a des mélanges sur le terrain de population. Et puis surtout, vous avez un rapport entre l'urbain et le rural qui est complexe et surtout extrêmement mouvant. Mossoul était une ville arabe, mais le vilayet de Mossoul était largement kurde dans sa population rurale et montagnarde. Et donc ça pose des problèmes dès que vous avez de l'exode rural. Et l'un des problèmes d'un projet national kurde, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu as peut-être 1 million de Kurdes à Istanbul.
Sans doute plus. On parle jusqu'à 3 millions.
3 millions de Kurdes à Istanbul. Et évidemment, cette diaspora de Kurdes en Europe, surtout en Europe du Nord, enfin Allemagne, Hollande, etc., puisqu'en fait, les Kurdes sont arrivés comme Turcs dans cette Europe, évidemment, ça produit des échanges continus, etc. Tu n'as peut-être pas suffisamment insisté, mais parce que ça te paraissait évident, sur la contradiction qu'il y avait entre l'ancrage à gauche des idées kurdes des années 60-70 et leur alliance occidentale. L'un des problèmes, c'est que pour les Kurdes d'Irak, ils avaient besoin d'alliés. Donc, ils avaient un allié israélien, un allié iranien, un allié américain qui leur fournissait des armes. Et on a encore vu très récemment. Donc, dans l'imaginaire politique arabe, les Kurdes sont assimilés à Israël, en particulier les Kurdes d'Irak, à cause de ces épisodes antérieurs à 1975, mais aussi encore de nos jours, quand on a eu la discussion sur l'éventuelle indépendance kurde, immédiatement d'un côté, les nationalistes arabes ont ressorti que ce serait une création israélienne, sioniste, etc. Et de l'autre côté, la presse israélienne a plébiscité la constitution d'un État kurde qui serait enfin un allié local de l'État d'Israël. Alors, l'anarcho-marxisme en dessous de PKK est assez impressionnant. En effet, avec sa production de Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette, qui passe très bien dans les médias occidentaux, mais qui correspond en même temps à un projet. Mais c'est, tout ça est très rigoureusement tenu, enfin, c'est très hiérarchisé, etc. Et je terminerai sur un point sur lequel tu as eu raison d'insister, et qui est pour moi un principe philosophique essentiel. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. C'est ce que disait Prévert jadis, c'est-à-dire que beaucoup d'idéologies politiques d'aujourd'hui sont des sociologismes qui en reprennent littéralement ceux qui sont des jeux d'hypothèses de construction intellectuelle de savoir, mais qui, comme toute construction intellectuelle de savoir, sont soumis à des changements continus. Ce ne sont pas des essences, ce que font les intellectuels. Ce sont des jeux d'hypothèses qui sont constamment remis en cause, reconstruites, etc. Et l'un des cauchemars du XXe siècle, c'est que ces constructions intellectuelles des sciences humaines et sociales sont prises au sens le plus littéral du terme par différentes idéologies politiques. Jadis, les Khmers rouges avaient suivi littéralement les formations intellectuelles des géographes français sur la nécessité de restaurer les campagnes et de diminuer le poids des villes. Comme quoi ils ont massacré toute la population urbaine cambodgienne, parce que leur maître avait dit ça dans les facultés de géographie à Paris et à Grenoble. Donc aujourd'hui, en France entre autres, sur d'autres polémiques que celles d'aujourd'hui, nous avons ce sociologisme qui est largement entré dans les débats politiques. Et c'est très intéressant que tu montres combien ce sociologisme fonctionne à l'intérieur du PKK lui-même. Je te laisse répondre.
Très volontiers. Donc, je commencerai par le dernier point. Habermas, qu'il ne faut pas prendre comme un sociologue, mais comme un théoricien de normatif, hein, disait que la modernité ne peut puiser qu'en elle-même, ne trouver des solutions à ces crises qu'en elle-même. Et je dirais de la même manière, la démocratie ne peut trouver des solutions à ces crises qu'en elle-même, et non pas dans cet imaginaire, même pas sociologique, mais tout simplement, effectivement, voilà, la démocratie peut se transformer, la cité démocratique peut se transformer. Je crois que si on prenait, il y a 40 ans, c'était l'homosexualité qui était interdite, aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est interdite. Hein. Donc, ne serait-ce que là, on voit combien les potentialités de la démocratie sont riches. Hein. Et je serais effectivement extrêmement méfiant par rapport à ces modèles théoriques qui peuvent être appliqués. Kant en était parfaitement conscient. Hein. Kant disait, il se peut qu'il théoriquement soit juste et pratiquement un désastre. Donc voilà, je crois qu'effectivement, il faudrait revenir à Kant sur cette question, revenir à Kant sur la question de la minorité, qu'est-ce que ça veut dire d'être mineur, revenir à Kant sur la question de la querelle des deux facultés, la nécessité de maintenir cette querelle en permanence. Il y a énormément de choses que je crois effectivement on peut trouver dans la démocratie elle-même et non pas à l'extérieur de la démocratie. Concernant la question d'Israël, oui. Israël a été effectivement un soutien des Kurdes irakiens, notamment de 67 à 74. 67-74, vous voyez aussi à quoi ça renvoie. Donc la guerre de 7 jours et puis tout de suite après la guerre de Kippour, jusqu'à la fin de la guerre de Kippour. Mais il y avait aussi d'autres facteurs qui intervenaient dans cela. C'est que l'Iran avait des litiges avec l'Irak. L'Iran était pro-israélienne, pro-américaine, et avait des litiges avec l'Irak. Ces litiges ont été suspendus finalement, tout simplement au détriment des Kurdes. Les Kurdes ont été abandonnés à la bonne volonté de Saddam Hussein, qui allait prendre le pouvoir 4 ans après pour déclencher la guerre de 1980. Et puis peut-être un autre élément intervient, bien entendu, pour les Israéliens, voilà, d'avoir un espace allié, un futur État allié, ça peut être important, mais il y a aussi énormément du Kurde, du Juif du Kurdistan d'Irak. Dans les années après la création de l'État d'Israël, beaucoup de Juifs ont été expulsés de force, parmi lesquels les Juifs du Kurdistan. Ces Juifs du Kurdistan ont maintenu un lien avec le Kurdistan. L'un des anciens chefs d'État-major d'Israël, le général Mordechai, était un juif du Kurdistan. Il y a un très beau livre de Claudine Cohen qui s'appelle « Grandir dans le quartier kurde » qui date de 72-73 sur ces juifs du Kurdistan. Je crois que la présence de cette communauté qui est estimée sans doute à plus de 100 000 personnes crée aussi un lien. Je te suis reconnaissant effectivement d'avoir mentionné la notion d'empire. Un empire est effectivement la gestion des contradictions. Un empire doit fixer une frontière. En même temps, cette frontière est une frontière passoire. Hein. Je veux dire, la frontière entre l'Empire ottoman et la Perse n'a jamais été en dehors des périodes de guerre une frontière contrôlée. Et les Ottomans ont vraiment commencé à contrôler leurs frontières que parce qu'au 19e siècle, au fin 18e, début 19e siècle, parce que les Russes le faisaient et les Austro-Hongrois le faisaient. Et donc, du coup, l'administration des frontières ne s'est imposée que très tardivement. Et en même temps, il faut avoir une frontière symboliquement. Un empire fixe la population. Cela, c'est le principe absolument central. Il ne faut pas que les populations soient mobiles. Et de l'autre côté, c'est l'empire lui-même qui déplace les populations. Un empire ne doit pas avoir ne doit pas intégrer sa population. Un empire ne peut pas être une fabrique de citoyennes. Et de l'autre côté, un empire ne peut absolument pas exister s'il n'y a pas une participation. Donc, il y a effectivement tous ces facteurs-là. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'un empire, Sherif Mardin, le sociologue, Sherif Mardin, tu as connu Sherif Mardin, n'est-ce pas ?
Oui, voilà, monsieur. Voilà,
un immense monsieur qui vient de disparaître. Sherif Mardin utilisait le terme de contrat tacite. Hein. Donc, un empire gère ses rapports avec ses populations par un contrat tacite. Et lorsqu'il y a une révolte, cette révolte ne se termine jamais avec l'extermination d'une population. Au contraire, la révolte est une façon de renégocier effectivement les statuts. Et je pense que les rapports entre les Kurdes et les deux empires d'ailleurs, voire le 3 parce qu'il y a aussi la Russie, ont été des rapports de ce type-là. De l'autre côté, par contre, il est évident aussi qu'un empire n'est pas politique. Est très politique. Peut-être que dans ce sens-là, l'Empire romain est une entité qui n'est pas impériale. Voilà. L'Empire romain est resté malgré tout, jusqu'au bout, peut-être républicain dans son principe. Et l'Empire ottoman n'a pas pu être politique. Et je crois que cette impossibilité de passer au politique a créé aussi énormément de problèmes, notamment à partir du 19e siècle, la question de Macédoine, la question du génocide des Arméniens. Je pense aussi, après ce que tu viens de dire, à ces textes d'austro-marxistes des années 1910-20, voilà comment on peut à la fois maintenir un empire et résoudre la question des minorités tout en posant la question politique. Et c'est vrai que François Vechteu disait que l'empire austro-hongrois s'est suicidé, mais a été aussi assassiné. Il a porté la nostalgie d'empire toute sa vie. Je crois qu'effectivement, peut-être qu'on peut envisager à l'avenir d'autres types de constructions impériale ou trans-étatique, qui ne prendrait pas l'État westphalien comme la seule unité en tout cas, et qui permettrait à la fois d'avoir un espace politique, avoir des continuités, des fluidités, des mécanismes de négociation, et permettre de résoudre ces questions nationales ou minoritaires.
Merci, tu me rapprends le décès de Sherif Mardin, c'était vraiment quelqu'un qui avait une intelligence exceptionnelle des situations historiques ottomanes, vraiment un immense savant.